Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, saison 2, épisode 19. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Un beau programme aujourd'hui, je suis très content parce qu'on va parler de films très différents. On a un peu de tout comme d'habitude. Tout d'abord Green Book, qui est un film dont vous avez certainement entendu parler puisqu'il y a un bon buzz autour de ce film. C'est un film de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Un film qui ne cesse de faire la une. Hein. Je sais qu'en France, il a reçu des très bonnes critiques parce qu'il est sorti la semaine passée. Et il sort chez nous cette semaine. Et notamment aux Oscars, mais on en parlera un peu plus tard dans cette émission. Il y a 2-3 nominations à son nom. Pas que ça, c'est ça. Deuxième film dont on va parler, c'est Dragon 3, Le Monde Caché. Alors, je sais que t'aimes bien cette saga-là. Et...
Oui.
Et tu vas nous parler du coup du troisième volet.
Peut-être.
Dernier volet ou... On ne sait pas.
Dernier volet.
Dernier, trilogie. Ok, super. On va parler également de Continuer. Ça, c'est un film de Joachim Lafosse avec Virginie Efira, dans le rôle phare, qui parle d'une mère qui part, je crois que c'est au Kazakhstan avec son fils.
Kazakhstan,
Kyrgyzstan, ouais, c'est un truc un peu un truc avec K et An. en tout cas, ils partent loin avec des chevaux pour essayer de se reconstruire en tant que duo mère-fils. On va vous en parler. Enfin, je vais vous en parler dans ce cas-ci, je pense. Attention, grosse exclusivité.
Oui.
Et par contre, tu vas nous parler d'un film que j'aurais peut-être dû voir. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, Thibaut?
Je me le demande.
Tu te le demandes au quotidien. Pourtant, on a été voir dimanche ensemble All Inclusive. On vous en parlera en temps voulu.
Oui. Mais on va pas se mentir, on n'aura pas grand-chose de positif à dire dessus.
Oui, mais est-ce que c'est mieux que Qu'est-ce qu'on a encore fait, mon Dieu? Ça, on va en parler tout de suite. tout de suite, enfin, tantôt.
Oui, on va en parler.
Alors, on plonge d'abord dans notre fameux box-office. Enfin, j'oublie toujours de dire un truc avant le box-office. Oui, comme je l'ai dit, on va parler des Oscars en fin d'émission, mais on va aussi parler des nominations au César, puisque c'est tombé récemment. Et on va pouvoir un peu parcourir tout ça ensemble, les principales catégories. Hein. Je vous avoue qu'on ne va pas commencer à parler de toutes les catégories non plus, mais il y a quand même un gros paquet de catégories qu'on va parcourir ensemble. On commence par le box-office, et là j'ai envie de dire, Papi Eastwood est content, parce que son film... La Mule, et non pas La Mule. La Mule est premier en France avec 665 000 entrées, donc c'est précis. Vachement bon score hein, pour un film voilà, indépendant américain, mais c'est pas non plus un gros film ou quoi, mais faire plus de 1,5 million d'entrées en France, c'est vraiment un très beau score. Donc chapeau à Clint. Deuxième film, c'est Glass de Shyamalan. Voilà, je l'ai.
Ça arrivera jamais. Jamais.
Shyamalan.
Oui, mais t'as bugué. T'as un peu buté sur le chien. Tu vas pas te remettre à chanter Shallow.
Non.
Il vient de me faire une prestation fabuleuse. Nous avons fait une prestation fabuleuse de Shallow en duo.
Ok, non.
Il faisait Lady Gaga et je faisais Bradley Cooper.
Exactement. Okay. 310 000 entrées pour Glass.
Tell me something, girl.
Oui, c'est ça. Mais vu que je suis Lady Gaga, moi je dis boy alors.
Bah oui.
Donc 310 000 entrées pardon, pour Glass. Près de 900 000 entrées au total. Donc c'est toujours un très bon score pour le film de M. Night. Voilà.
M. Night, comment exactement?
Shyamalan.
C'est bien.
Voilà. Et le troisième film, c'est Green Book, bah, justement le film dont on va parler en ouverture de ce podcast. 290 000 entrées en France. C'est un bon score, ça aurait pu être plus haut, mais ça reste un film quand même avec un sujet particulier, très américain, donc voilà, c'est normal aussi qu'il ne soit pas numéro 1. Et quatrième, c'est Creed 2, 240 000 entrées, 1,5 million d'entrées en France, donc la saga Rocky a encore de beaux jours devant elle dans l'Hexagone, n'est-ce pas?
Oui.
Suivi de Les Invisibles, c'est ce fameux film dont on avait un petit peu parlé, qui traite d'un sujet assez atypique, puisqu'on parle des sans-abri. Oui. On n'en parle pas tous les jours des sans-abri au cinéma.
Non, ça c'est sûr.
Voilà. Donc, qui parle intelligemment des sans-abri et qui a bientôt 1 million d'entrées en France. Donc ça, c'est pas mal du tout pour un film qui n'a pas peut-être la prétention à la base d'arriver à un tel chiffre. Donc c'est pas mal du tout.
C'est plutôt très bien.
On ne peut que le féliciter. parlons tout de suite du gros poisson, Green Book. Gros poisson, je dis ça, mais il y a encore des gros poissons après, comme on a vu. Green Book, qui est un film de Peter Farrelly. Alors, Peter Farrelly, pour ceux qui nous écoutent, c'est la moitié des frères Farrelly. Hein,
c'est plutôt bien vu. Comme
c'est plutôt bien vu. Mais les gens oublient qui sont les frères Farrelly. Ouais. Pourtant, les frères Farrelly, c'est quand même ceux qui nous ont donné une comédie qui a marqué ma jeunesse.
Marie à tout prix.
Marie à tout prix, avec la fameuse scène de la braillette. Avant d'aller au bal de promo dans une toilette et des pompiers qui viennent...
On a très bien compris
ce qui s'est passé. Et pour ce film-ci, il change un peu de style parce que c'est vrai qu'il avait fait récemment Dumb and Dumber 2. Mm-hmm. Donc, on n'est pas dans un film très intellect. Et là, par contre, il nous fait un film qui est très calibré pour les récompenses, on peut le dire tout de suite.
Les frères Farrelly, ils ont quand même fait beaucoup de daubes. Hein.
Oui, oui. Trucs, c'est 50-50. Hein, c'est,
Ouais. Et là, bah ouais.
Et là, il nous sort un
film. C'est la deuxième fois que Peter réalise tout seul.
Il teste un truc tout seul, en effet. Et dans ce cas-ci, il nous sort un film qui est nettement plus calibré, nettement plus travaillé, sans doute, et mieux écrit et tout. Enfin, vraiment, belle petite perle, qui est Green Book. Alors, pourquoi est-ce que c'est une perle ? On va en parler. Mais en tout cas, une des raisons pour lesquelles c'est une perle, c'est notamment son duo d'acteurs, Viggo Mortensen et Mahershala Ali, qui se complètent très bien dans ce film. On va en parler aussi. Mais je pense qu'il faut donner un petit peu le background de l'histoire avant de faire la critique du film.
Ouais.
Donc ça se passe en 1960 aux États-Unis. Il y a un Italien qui s'appelle Tony Lip, ce genre de mec un peu qui aime la castagne, qui
I'm an American from Italia.
Voilà, exactement. Il n'est pas dans la mafia, mais il pourrait l'être, mais il ne l'est pas. Et donc du coup, un jour, il n'a pas de job, il a perdu son job, et on lui demande de devenir le taximen d'un homme qui s'appelle le docteur Shirley. Il va voir le docteur Shirley
chez lui. Un type un peu mégalo quand même.
Un entretien, et il voit un type avec un trône, des cornes d'éléphant et tout dans son salon, donc un type assez spécial, mais il est noir.
On dit des défenses.
Des défenses, pardon. Des cornes d'éléphant. Il faut bien que je fasse ma couille. Hein. Donc, des défenses d'éléphant. Et il se trouve bien que... Quoi ? Et que le docteur Shirley, en fait, est noir et est un musicien. Donc, à la base...
C'est Baraki qui est ressorti, là. C'était exactement. Fabuleux.
Ne dis pas le mot Baraki. C'est dans l'actualité partout cette semaine.
Ah ouais ?
Ah oui, à cause du match de foot, là. J'ai pas compris
l'astuce. Pas trop suivi non plus.
Ça implique Charleroi et Liège.
Forcément.
J'ai dit je crois. Et donc du coup, le docteur Shirley est un pianiste de renom, hein, mais ça il ne le sait pas, qui doit jouer en fait dans plein de résidences, on peut le dire de blanc, hein, dans le sud des États-Unis, et il doit l'accompagner sur ce trajet, et il a ce fameux Green Book, qui en fait est un livre avec toutes les bonnes adresses pour les personnes de couleur.
Dans le sud.
Donc c'est, en fait, c'est les uniques adresses où ils peuvent aller sans avoir trop de problèmes. Voilà, qu'on se le dise. Qu'est-ce qui va se passer dans le trajet ? Voilà, ça c'est un peu l'histoire du film. Mais je reviens sur ce duo d'acteurs qui est juste saisissant. Es-tu d'accord avec moi ?
Tout à fait.
Là-dessus.
Tout à fait.
Et particulièrement, je trouve Viggo Mortensen qui se métamorphose en Rital.
Mais Viggo Mortensen se métamorphose,
souvent.
À chaque fois. Hein, donc, c'est pas étonnant de sa part. Mahershala Ali. Bah, ça fait quoi, 3-4 ans qu'il est en train de monter, enfin un peu plus maintenant, depuis la première saison de House of Cards, en fait, qu'on l'a vraiment découvert.
Et à côté de ça, c'est vrai que ces derniers temps, là, cette dernière année, il a eu plein de films.
Il a eu la saison 3 de True Detective aussi.
Voilà, donc, il est Moonlight.
Oui, il avait un rôle dans Moonlight, effectivement. Enfin, voilà, c'est un comédien qui monte vraiment énormément depuis quelques années maintenant. Et ici, il a le rôle principal avec Viggo Mortensen. Enfin, c'est plutôt Viggo Mortensen qui a le rôle principal. Oui. Lui est, on va dire, un second rôle, même si pendant, on va dire, les trois quarts du film, ils sont autant personnages principaux l'un que l'autre. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais c'est un vrai duo, je trouve, plus qu'un qui est plus en avant que l'autre. Mais c'est, dans les faits, c'est plus le personnage de Viggo Mortensen qui est...
le fil conducteur du film, enfin, c'est lui qu'on suit depuis le début. Et
complètement.
Voilà.
Oui, c'est avec lui qu'on commence, effectivement, et puis qu'on rentre dans cet univers un peu particulier du docteur. Et puis, c'est son parcours à lui, dans le sens où, même si le docteur va aussi sans doute apprendre un peu du personnage de Tony Lip,
oui.
C'est surtout Tony Lip qui va se découvrir lui-même, en fait.
Oui, c'est vrai que...
De par des remarques parfois racistes, clairement. Ce gars vient d'un univers un peu raciste, un peu macho.
Disons qu'il est un peu d'un univers à la base sous-éduqué. Et Mahershala Ali, par contre, est suréduqué. Donc il a fait des collèges, de bazar, de bidule. Et il s'exprime remarquablement bien. Il écrit comme pas deux. Et l'autre, par contre, c'est le genre de type, quand il écrit une lettre à sa femme, il dit « il fait beau, j'ai mangé un hot dog et tout va bien ». Donc, c'est pas très recherché. Et donc, c'est vrai qu'ils vont être très complémentaires là-dedans, puisque le personnage de Viggo, donc Tony Lip, c'est celui qui sait justement intervenir quand il faut et passer à l'action.
Ouais.
Alors que le personnage de Dr. Shirley est quelqu'un d'assez distant, passif, qui n'ose pas vraiment s'interposer quand il faut. Donc voilà, c'est un peu une belle amitié qui va se créer dans ce trajet.
Ouais, et puis c'est surtout une plus qu'une amitié, c'est plus de la découverte. Donc chacun va en apprendre plus sur l'autre, sur la culture de l'autre, et puis sur soi-même. Ils vont remettre en question certaines de leurs connaissances. Ils avaient peut-être des idées arrêtées sur certaines choses, et tout cela va évoluer. Donc en fait, je trouve que c'est un bon exemple de racisme qui évolue et il est illustré de façon assez intelligente, parce que souvent on est raciste ou on a peur de quelque chose parce qu'on ne connaît pas cette chose, et que c'est en apprenant à la connaître qu'on change d'avis. C'est exactement ce qui se passe ici, et c'est ça qui est bien bien illustré à l'écran. Donc je trouve que c'est le gros point fort du film. C'est porté par deux excellents comédiens, évidemment, Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Leur duo fonctionne assez bien. Donc, c'est plutôt bien vu, cette histoire. Et la façon avec laquelle c'est raconté par Peter Farrelly, qui clairement surprend avec ce film. On l'a dit au début, son frère et lui sont plutôt habitués à des comédies balourdes.
Avec un humour potache, quoi. Et ici, potache. Au contraire, c'est un humour plus intelligent, plus basé sur les personnages, sur leur évolution.
C'est beaucoup plus fin, même s'il y a encore des clichés, mais.
Oui, un petit peu.
Mais bon, l'Amérique des années 60 est un cliché en soi, presque.
Oui. Donc, surtout quand il commence à neiger et qu'il y a des vieilles
familles d'Italiens. Alors, il y a des scènes un peu plus gênantes. Par exemple, il y a un moment, ils sont dans la voiture, ils sont souvent dans la voiture.
Oui.
Le personnage de Tony Lip veut manger du poulet frit.
Oui.
Truc qui est cliché.
Nourriture de noir.
Nourriture de noir, effectivement. Oui. Et le personnage de Mahershala Ali en avait jamais mangé avant. Et puis il en goûte et il adore ça. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un peu une scène un peu plus délicate, dans le sens où elle se joue. Enfin. T'as l'impression que c'est le blanc qui apprend la culture, enfin ce que devrait être la culture du noir au noir, en fait. Et donc c'est un peu... Il y a un truc assez intéressant. Pour moi,
c'est de la maladresse de la part du personnage, qui ne comprend pas que c'est raciste de dire ça.
Bien sûr.
Un peu comme dans Get Out.
Bien sûr, mais du coup, je trouve que cette scène est moitié problématique, moitié intéressante, parce qu'elle en dit long sur beaucoup de choses. Mais voilà, disons que c'est ce genre de scène, il faut bien faire attention à ce qu'on voit, il faut bien essayer de la comprendre. Je pense que la plupart des gens vont la regarder, vont la trouver drôle, peut-être un peu mignonne, mais voilà, il ne faut pas oublier non plus tout ce que cette scène dit et raconte sur les personnages ou sur la mentalité.
Moi, ce qui m'avait un peu, par contre, étonné dans le film, c'était au début du film, ils font croire, en fait, que le personnage de Tony Lip est raciste, clairement. Mmh. Allez, il est vraiment activement et pas uniquement en pensée, ou tu sais, avec des stéréotypes, quoi. Donc voilà, il refuse à un moment donné, enfin il va jeter des... Il y a des noirs qui font des travaux chez lui, il boit dans un verre d'eau et il va jeter des verres d'eau à la poubelle, donc c'est quand même assez poussif. Mais une fois qu'il rencontre le personnage du docteur Shirley, très 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 rapidement, cette espèce de racisme qu'il a avant, qui est très manifesté, n'est plus là.
Bien sûr.
Et donc c'est un peu rapide, tu dis oula, à mon avis ils voulaient peut-être plus explorer ça, ou ils ont abandonné cette piste, mais on sent qu'à la base il y avait un peu une orientation différente par rapport à ça.
Essaye de pas tout casser, s'il te plaît.
Oui, je sais, il y a mon fil qui me dérange. Et donc voilà, mais à part ça, à part ces petits problèmes parfois, de, comme tu dis, de scènes, je pense que Peter Farrelly rajoutait peut-être quelques scènes, ce qui fait aussi que le film est long, il fait 2h15. Il a rajouté des scènes, comme tu le dis, qui sont pas spécialement hyper importantes pour l'histoire, mais qui sont des moments un peu de comédie, un peu plus léger, quoi, clairement. Si t'enlevais la touche Farrelly, le film serait beaucoup plus dramatique.
Ouais. Mais je trouve pas que le... Je trouve pas forcément qu'il y ait des scènes inutiles, plus, plus légères. Il y a quasiment toutes les scènes ont... ont sens. Elles font sens vraiment énormément, comme celles dont je parlais, évidemment. Il y a des trucs un peu plus... effectivement, un peu plus légers, mais... Il y a toujours une idée derrière ça. C'est pas juste léger pour être léger ou juste là pour être drôle. Rien n'est laissé au hasard, en fait, dans ce film. Donc c'est ça qui est très intéressant, je trouve. Il y a chaque scène ou chaque partie de scène a une signification importante dans tout ce contexte racial. Et donc c'est ça vraiment une des grosses forces du film.
Bah écoute, oui. Je ne sais pas ce qu'on peut dire de plus. Parce qu'il ne faut pas en dire trop. Ce qu'il faut dire, c'est que voilà.
C'est un road movie. On peut quand même le.
Ah oui, non, ça se passe vraiment dans une bagnole. Oui.
On l'a dit sans le dire. Parce qu'ils vont faire
un trajet assez long. Une
tournée du sud des États-Unis.
Et ils vont clairement s'arrêter dans plusieurs villes, etc. Et au fur et à mesure que leur voyage avance, plus ils s'enfoncent dans le sud des États-Unis, plus ils rencontrent des gens. Raciste, clairement. Et on voit comment ça affecte les personnages et tout. Et puis il y a aussi le dilemme du personnage du noir qui, entre guillemets, brille en société. Mm-hmm. Et qui se dit, tiens, mais par rapport à tous les autres qui ont plus de mal, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis parmi eux? Il y a cette question-là aussi qui est abordée, quoi. Donc voilà.
Il y a des scènes assez dingues vers la fin où il est invité à jouer dans un endroit un peu prestigieux. Enfin, il joue dans beaucoup d'endroits un peu prestigieux, mais... Il est invité, je ne sais plus, à un gala ou quelque chose comme ça. Quelque chose,
voilà, un truc du style.
C'est un peu ça, c'est le Rotary Lions Club local. mais il ne peut pas manger dans le restaurant du Rotary Club. Parce que pourtant, c'est noir.
L'invité d'honneur.
Alors que c'est lui, la star de la soirée. C'est assez... toute cette séquence-là et celles qui suivent sont assez géniales. Déjà, parce qu'elles sont drôles, c'est un peu... Il y a un petit côté triste à se dire que ça, c'est drôle. C'est pas l'action en elle-même qui est drôle, mais il en découle des choses assez drôles. Mais elle est surtout hyper, hyper prenante et hyper poignante parce qu'elle raconte énormément de choses à nouveau.
Vraiment.
Sur des thématiques problématiques, bien évidemment. Donc voilà, il y a beaucoup de choses très, très intelligentes, très fines, très drôles. Donc voilà, Green Book, un joli coup de cœur, on peut le dire, non ?
Oui, un excellent film que je conseille vivement parce que vous savez, j'aime bien les comédies. Et justement, on a ce mélange drame-comédie. Biopic un tout petit peu. Hein.
Oui, parce que c'est basé sur une histoire vraie.
Ouais. Écrite d'ailleurs par le fils de,
ouais.
de Tony Lee.
Ce qui apparemment est déjà un peu problématique parce que c'est pas l'histoire vraie. Fin...
Oui, apparemment il y a plus d'animosité entre les deux hommes que dans le film. Bon, ça reste un film où ils essaient un peu d'adapter la réalité pour que ce soit plus sympa pour le cinéma.
Oui, à la limite, peu importe. Moi je trouve que c'est le message qui prime plus que sur la véracité des événements.
C'est ça quoi. Est-ce qu'il a bu un coca ou pas? Non. Voilà, il faut être un peu plus souple. Qu'est-ce qu'on lui donne du coup à Green Book? Moi, personnellement, je le noterais très très haut.
Un petit 4, ça.
Un petit 4,
ouais. Ouais. Je le sentais bien.
J'aurais été gentil sur le 4, là.
Ouais, bah, allez hop.
Un petit 4,
oh, bon, 4 pour Green Book.
Pour moi, c'est une excellente surprise du mois de janvier. Un film à ne pas manquer si vous aimez, justement, comme on l'a dit, ces films années 60 avec de la comédie, de la légèreté, mais aussi de la profondeur, d'un peu de tristesse aussi par moment. Donc vraiment, un très chouette mélange que je conseille à. Toutes et tous, passons tout de suite au César, puisque ça devient beaucoup plus prestigieux tout à coup ce podcast. Il y a eu des nominations au César, aux Oscars. On commence par les récompenses francophones, parce que nous sommes un podcast francophone. On n'a fait ça pas dans l'ordre du tout, hein, je vous préviens. On ne va pas directement commencer par le meilleur film, parce que voilà, c'est un peu, sinon c'est gâcher le plaisir. Commençons tout de suite par le meilleur premier film, dans ce cas-ci. Je pense que tu n'as peut-être pas ouvert la bonne conduite, Thibaut.
Si, j'ai ouvert la...
La deuxième,
pardon.
Voilà.
Oui, c'est bon.
C'est bon. Donc, la première partie des Césars. La première catégorie, c'est le meilleur premier film. Alors, les nominés sont...
Je rigole. Alors, on dit les nommés. On arrête tout de suite.
Moi, j'aime bien les nominés.
Oui, mais non, c'est pas français.
Tu peux pas dire ça.
Non.
Oui, mais c'est Guillaume.
Oui, mais non. Tu dis nommés. Je vais t'apprendre.
Les nommés sont... L'amour flou, Les chatouilles, Jusqu'à la garde, Sauvage et Sherezade. Alors, je pense, même si j'ai pas tout vu, que les chatouilles et jusqu'à la garde vont un peu se batailler pour ce prix-ci.
Il me semble.
Il te semble, et il te semble aussi que c'est peut-être jusqu'à la garde qui va gagner.
Il me semble.
Il te semble. On n'en a pas parlé avant.
Non.
Meilleur film étranger. Alors, Three Billboards, Les Panneaux de la Vengeance, Capharnaüm.
Ce sous-titre français, oui, ça. Les Panneaux de la Vengeance. Je sais qu'il faut pas le dire, mais j'en peux plus, quoi.
Capharnaüm, Cold War, Girl, bonjour. Anna, Nos Batailles, Une Affaire de Famille.
On a quand même deux films belges dans les meilleurs films étrangers.
Hein. Exactement.
Boum, boum, boum.
Qui sont
Girl et Nos Batailles, et je... Ben moi, mon film préféré de tous, c'est Three Billboards, donc ça me plairait beaucoup que ce soit celui-là, mais je ne dirais pas non à Girl ou Nos Batailles, évidemment. Enfin, cela dit, même Cold War ou Une Affaire de Famille, ça
allez,
me va. Hein,
on va moi, pas, je te dis que ça va être Girl. Sentir.
Non, je pense pas.
Alors, les Français ont quand même extrêmement kiffé Girl. Hein.
C'est vrai.
Mais c'était vraiment... ils n'arrêtaient pas d'en parler à Cannes, c'était limite si c'était plus important que le festival.
Là, tu t'emballes
un peu. Le jour J, en tout cas, oui, partout, quoi. Chez Ruquier, partout. Ils sont passés par tous les gars.
C'est vrai.
Donc, à mon avis, bon, peut-être une petite surprise, on verra. Meilleur espoir féminin, Ophélie Beau dans Mektoub My Love. Oui, là, je vais avoir des problèmes de diction.
Galatea Bellucci dans L'Apparition. Encore une nomination belge. Hein.
Tout à fait. Continue.
Jenny Beth dans Un Amour Impossible, Lily Rose Depp dans L'Homme Fidèle et Kenza Fortas dans Scheherazade. Alors, je n'ai vu que deux films. Non, un film. Donc je ne vais pas m'avancer sur...
T'as vu Mektoub ?
Non, même pas, je voulais, mais non.
Donc je ne peux
absolument pas te dire qui pourrait avoir
ce prix. Et Jenny Beth, si je ne me trompe pas, c'est celle qui interprète Christine Angot. Ou c'est la...
Sans doute.
Oui, c'est ça, oui. Mais à quel âge ? Bonne question, mais... parce qu'il y en a plusieurs dans le film, mais je suppose que voilà, on verra. Mais oui, donc voilà, c'est une catégorie où on ne sait pas vraiment vous dire, on a hâte de voir ce que ça va donner, mais...
Ouais, petit côté chauvin me fait dire allez Galatea, mais bon, je n'ai pas vu le film.
Exactement. Donc, meilleur espoir masculin, donc Anthony Bajon.
Oui,
c'est Bajon. La Prière, Thomas Diora pour Jusqu'à la Garde, William Lebgill pour Première Année, Karim Leklou pour Le Monde est à toi, Dylan Robert pour Scheherazade. Il est marqué Scheherazade.
Mais non.
Scheherazade.
Ah.
Ok.
Guillaume.
Oh là là. Terrible, hein?
Ah, terrible.
Il y a du travail, hein?
Énormément.
Je t'ai dit que ma mère était prof de français.
Oui, je sais.
Maman, si tu m'écoutes.
Je téléphonerai.
Tu téléphoneras à Edith. Ah, oui, je reviens.
Donc. Mais alors là, il y a du lourd pour le coup. Je trouve que Anthony Bajon dans La Prière, il était absolument fantastique. Thomas Gioria, pardon, dans Jusqu'à la Garde aussi.
Ah, mais tu prononces pas bien. Hein.
Et puis, William. Donc.
Écoute, William, on l'a eu en interview de tout premier épisode de cette deuxième saison Cinécast, donc on devrait être un big up pour lui.
Allez, on va dire William.
Mais je ne pense pas que ce sera lui.
Mais franchement, si c'est un des trois que j'ai cités, là, je suis enchanté.
Parce que j'espère vraiment, que c'est lui.
Voilà. J'ai pas vu chez Razade, donc je ne peux pas dire pour Dylan Robert. Karim Leklou, pour moi, c'est déjà presque plus un espoir. Parce que c'est un fantastique acteur français que j'aime beaucoup.
En tout cas, si c'est William, on l'appellera.
Ça va.
Meilleur scénario original En Liberté, Le Grand Bain. Guy, Jusqu'à la Garde et Pupille. Alors là, il y a de la compète.
Il
hein.
y a quand même trois comédies là-dedans. Ah, oui, enfin, non, on a les deux comédies. Et,
attends, là, il y a de la compète hein, quand même.
Il y a de la compète.
C'est terrible. Hein. Alors, je pense qu'on enlève Guy. Scénario, je ne sais pas.
C'est franchement... celui qui a le moins de chance.
Ouais. Scénario, non. En scénario, non. Oui, le film est bien, mais en scénario, bah, c'est pas sa force.
Non.
On verra.
Je mettrais bien une petite pièce sur En Liberté quand même. Ça serait mérité.
Ah, c'est original en tout cas, ça c'est sûr. C'est le moins formaté. Quoi. Mais
Scénario original ne veut pas dire que c'est original. Hein.
Oui, mais quand tu fais un scénario original, allez, tu fais un scénario, t'as envie d'avoir un truc un peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir.
Non, mais le mot original de l'appellation meilleur scénario original.
J'ai compris, c'est pas basé sur quelque chose.
Je sais. Je le répète.
C'est pas meilleur scénario. Sinon, c'est Tim Burton qui gagne chaque année. C'est pas le cas. Quoique, chaque année, maintenant, ça fait longtemps qu'il a pas fait un truc original. Mais on en parle.
C'est pas mal.
Ensuite, meilleure adaptation, Les Chatouilles, La Douleur, Les Frères Sisters, Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde.
En effet. Bah, très honnêtement, je n'ai lu aucun des bouquins.
Meilleure
ou des
adaptation, oeuvres. Le Grand Bain ? Mais si c'est meilleur scénario original ?
Oui, non, il y avait une erreur. C'est vrai que j'avais vu qu'il était, il était mis dans les deux, mais non, c'est.
Ils sont trompés ?
Oui.
Sur le site officiel, hein, voilà.
Oui, non, ils sont trompés, il n'y a que mes scénarios originaux.
Oui, je me disais bien. C'est bizarre quand même. Je sais qu'ils aiment bien Le Grand Bain, les Français, mais il ne faut pas... pas abuser non plus. Donc, dans ce cas-ci, il y a de fortes chances que les Chatouilles gagnent, quand même, je pense.
Ça serait assez logique.
Pièce de théâtre et tout et tout. Meilleure photo, La Douleur, Les Frères Sisters, Mademoiselle de Jonquière. Meilleure photo, pardon. Le Grand Bain et Jusqu'à la Garde.
Ouais, Les Frères Sisters.
Ça risque d'être Les Frères Sisters, oui.
Et à nouveau, c'est le petit côté chauvin.
Pour Benoît.
Bah oui, allez Benoît.
Et meilleure musique originale, avant de passer au deuxième film, et on prendra plus tard pour les Césars. Amanda. Toujours pas vu Amanda d'ailleurs, ça sort quand chez nous, ça bientôt, non? En février.
C'est Amanda. Déjà sorti, non?
Ah, je sais pas. Amanda, En Liberté, Les Frères Sisters, Guy, Pupi et Un Amour Impossible. Alors, si c'est Guy, ça serait quand même terrible.
Ça serait assez drôle. Mais pour le coup, je dirais Les Frères Sisters aussi.
Ça ne m'étonnerait pas que ce soit Guy, tu sais. Parce que le boulot qu'ils ont eu pour faire cette... Parce que moi, j'ai écouté le CD.
Mais la musique est très bien.
C'est vraiment bien. Allez, c'est... Pour le sujet, c'est bien, mais je ne vais jamais écouter ça dans ma voiture. Mais...
Non, mais il faut le remettre dans son contexte. Ça fait un peu vieux chanteur
qui est français. Oui, c'est Julien Clerc à crever, oui,
c'est
ça.
Bien sûr. Voilà.
C'est notre chanson, mon cœur.
Il y a un petit côté clo-clo.
Qui me remplit de bonheur.
Bien sûr, bien sûr.
Et je chante, da-du-di-du-di-da.
Tu connais bien la chanson.
Oui, je la connais. Elle me rentre en tête, c'était fort.
Le CD tourne dans la bagnole en boucle.
Ah oui, carrément. Tendresse, caresse. Ok, on passe au deuxième film.
Merci Guillaume. Non, et pour répondre à ta question, Amanda, il me semble qu'il est sorti la première semaine de janvier chez nous.
Ah ouais? Ok, bah c'est pour ça qu'on ne l'a pas couvert dans Cinécast. Voilà. C'est dommage, il paraît que c'est bien. Soit. Donc parlons tout de suite du dernier film de la saga Dragon, du coup. De la trilogie Dragon, il y aura sans doute un spin-off.
How to Train Your Dragon, The Hidden World.
Voilà, ça c'est pour les Anglais. Nous, c'est Le Monde Caché.
Dragon 3.
Dragon 3, Le Monde Caché.
De quoi ça parle, Guillaume?
Je n'ai pas vu les deux premiers.
Ah, ben bravo.
Je
ne
suis pas très film d'animation de manière générale. Je vais sans doute le devenir dans pas très longtemps pour des raisons évidentes. mais à l'heure actuelle, je ne suis pas très film d'animation. Je crois que ça parle de Dragon, qu'on apprend apprivoiser. Et
ça, c'était dans le premier.
Et il se passe des choses avec, quand tu vois, c'est un peu la lutte des dragons et tout. Ouais. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que je te dise?
Non, à la base, je voulais juste que tu me lises le synopsis, mais...
Ah, tu veux que j'y aille? Ok, c'est parti avec ma voix. Bedtime Stories.
Vas-y.
C'est le moment podcast émotion. Harold est maintenant le chef de Berk. Berg? Non, Berk. Aux côtes...
Oui, Berk, pas Berg...
Oui, aux côtés d'Astrid et Croque-Mou. Alors forcément, je ne sais pas qui c'est. Croque-Mou, c'est pas un petit truc un peu mignon, une peluche?
Bah, c'est le dragon.
Oui, c'est ça, c'est le dragon.
Alors, je passe au courant, mais on parle du film dragon, là. Donc,
Et Croque-Mou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Il réalise enfin leur... C'est fini, on doit arrêter, on doit recommencer. Il réalise enfin leur rêve de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l'apparition soudaine d'une furie éclair coïncide avec la plus grande menace que le village n'ait jamais connue, Harold et Croque-Mou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n'auraient jamais soupçonné l'existence. Je m'arrête là. C'est le bon point pour s'arrêter. Ils ont continué la phrase, mais il ne fallait pas. Donc voilà.
Ouais.
Nouvelle quête.
Alors sache qu'une furie éclair, c'est l'espèce du dragon qu'est Croque-Mou, en fait. Donc...
Sa famille.
Donc en fait, on pensait qu'il était le dernier de son espèce, mais... Petite femelle qui...
Croque-Mou appelle maison.
Oui.
Exactement.
Façon de présenter les choses.
Façon de présenter le film. Et alors, peux-tu nous en parler plus, à part dire que Croque-Mou...
Croque-Mou est un joli dragon. alors en fait, ce qui est... Enfin, j'ai adoré le film. Voilà, tout simplement.
Boum,
4 étoiles.
Ah, ok, waouh, directement.
Ouais, ouais. Là.
C'était Dragon 3D ou pas?
Non, c'était pas en 3D.
Ok, heureusement, peut-être.
Bon, je sais pas. Moi, je m'en fous un peu, la 3D, je t'avoue. Donc, ça me passe par-dessus la tête. C'est un épisode qui est un peu moins... qui est peut-être un peu plus classique que les autres. C'est un film somme. On retrouve vraiment tous les ingrédients qui ont fait le succès des premiers volets. Mais c'est un film un peu plus classique, peut-être, dans cette trame. Un peu plus, peut-être un peu moins, pardon, spectaculaire. Il y a peut-être des séquences un peu moins marquantes que dans les films précédents. Mais c'est un film qui est beaucoup plus énergique, qui est beaucoup plus généreux, en émotion notamment. Je trouve que c'est le film le plus émotif des trois. C'est un film très, très touchant, parce qu'il se passe... plein de jolies choses dans ce film. Les personnages grandissent, que ce soit les dragons ou les vikings. Les relations sont encore plus creusées. elles sont mises à l'épreuve, les nerfs sont mis sont à vif aussi. Il y a il se passe beaucoup de choses parce qu'en fait le village sera mis un peu en péril. Il y a un méchant viking qui veut les attaquer. Et puis il y a ce fameux monde caché qui va être, ils l'espèrent, leur refuge. Mais vont-ils le trouver ? Ça, voilà. Donc il se passe... Enfin, c'est une histoire très classique de film d'animation, en fait, pour enfants. Il y a décidément... t'arrêtes pas de tousser, d'éternuer. Là.
Oui, qu'est-ce que tu veux, il fait froid.
Ben oui. Mais du coup, ça marche énormément, en fait, parce que parfois, les recettes les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux.
Exactement. Donc, il y a un petit air de Toy Story 3 dans ce que tu me racontes, quand même.
Oui, dans le sens où les personnages grandissent. Quand on a connu Harold, dans le tout premier, c'était un môme. Dans le deuxième, il était déjà ado. Ici, dans le troisième, il est fin ado, presque début adulte. Et arrive à un moment du film où on le voit adulte. Enfin, c'est plutôt l'épilogue, si je puis dire. C'est pour ça que cet épisode est vraiment le troisième de ce qui est désormais une trilogie. Et je pense que j'espère d'une certaine façon que c'est le dernier volet, même si j'adorerais revoir ces personnages encore dans un autre film. Mais je trouve que Dragon 3, c'est vraiment une très très belle, une exceptionnelle conclusion à une trilogie qui est vraiment... c'est le haut du panier de l'animation. Moi, je trouve que c'est une des meilleures sagas d'animation qui existe. Et qui va me manquer beaucoup quand même, parce que c'est vraiment de l'excellent boulot. L'animation est superbe. La musique de John Powell, pour moi, c'est une des meilleures de ces dernières années. Sur toute la saga, sur les trois épisodes, cette musique était vraiment excellente. Pour moi, John Powell fait aussi partie de ces compositeurs géniaux, tout simplement. Il fait partie de la génération actuelle qui fait du boulot remarquable. Parmi le meilleur, d'ailleurs. Donc, un peu triste de voir cette trilogie se conclure.
D'un côté, tant mieux, parce que ça veut dire que ça termine sur une belle note. Et je pense que dans l'ensemble, c'était qualitatif, puisque tu as aimé les autres volets aussi.
Très, très qualitatif. Vraiment, des très bons doublages aussi en anglais. J'ai pas vu les films en français. À part peut-être le premier, je sais plus. Enfin, soit... Vraiment très très bon boulot, les designs sont vraiment cool, les dragons ont toujours été très cool, tout ce qui... En fait, c'est l'univers imaginé est génial, donc t'as juste envie d'y aller, quoi.
C'est génial, donc voilà, un 4 étoiles, et on se fait plaisir pour Dragon 3, le monde caché. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire beaucoup plus ? Je pense pas, il faut découvrir le film par soi-même. Et...
Ouais, j'ai très peu de temps en ce moment, donc j'ai... Je sais pas si j'aurai le temps, mais j'ai très envie de déjà le revoir. Bon, ça fait déjà un moment que je l'ai vu, mais...
Le verras au cinéma ou...
Mais oui.
T'achèteras le Blu-ray, parce que t'as déjà les deux ou pas ?
Non, non.
T'as pas encore les deux ?
Alors du coup, je pourrais acheter le coffret.
Tu vas acheter le coffret à 69,70€. Parlons encore des Césars, revenons un peu à nos moutons, parce qu'on était en train de faire la liste et il y avait du beau monde. Et maintenant, on va plonger dans le vif du sujet, parce que là, on est vraiment dans les catégories... qui valent 3 milliards, comme on dit. Tout d'abord, le meilleur film.
Non.
Tu veux commencer par la fin ?
Mais oui.
On commence par la fin. Meilleur acteur dans un second rôle, Jean-Hugues Anglade dans Le Grand Bain, Damien Bonnard dans En Liberté, Clovis Cornillac dans Les Chatouilles, Philippe Catherine dans Le Grand Bain, Denis Podalides, j'ai toujours du mal avec son nom, Podalides dans Plaire, Aimer et Courir Vite.
Eh bien, écoute, je pense que je vais dire Clovis Cornillac dans Les Chatouilles.
Ce serait une belle surprise.
Ouais.
C'est clair, ça sera pas dans Belle et Sébastien, mais ça c'est une belle surprise pour Clovis Cornillac. Écoute, c'est fort probable. Jean-Hugues Anglade a quand même un très beau rôle dans Le Grand Bain.
Moi, c'est vrai.
Je suis assez fan de son rôle. Maintenant,
Philippe Catherine aussi.
Mais ils ont tous des chouettes rôles, donc, et c'est un truc d'ensemble, donc c'est plus compliqué. Donc voilà, ça c'est meilleur acteur. Meilleure actrice dans son second rôle, Isabelle Adjani dans Le Monde est à toi, Léla Becti dans Le Grand Bain, Virginie Efira dans Le Grand Bain, Audrey Tautou dans En Liberté et Karine Viard pour Les Chatouilles.
Excellente question.
Pas Virginie et Léla.
Je pense pas non plus.
Elles ont un chouette rôle, mais honnêtement, c'est pas un rôle
de dingue. Je trouve qu'Isabelle Adjani est un peu over the top dans Le Monde est à toi. Donc, bon.
D'un côté, le film est over the top.
Oui, c'est vrai. écoute, Audrey Tautou, Karine Viard, je sais pas.
Karine Viard,
ça se défend, ouais.
Pour le film de plus dramatique. Meilleur acteur, Édouard Baird dans Mademoiselle de Jonquière, Romain Duris dans Nos Batailles, Vincent Lacoste dans Amanda, Gilles Lelouch dans Pupille, Alex Lutz dans Guy, Pio Marmaille dans En Liberté et Denis Ménochet dans Jusqu'à la Garde.
Romain Duris dans Nos Batailles.
Ah ouais, carrément ?
Ouais, moi je trouve que c'est son meilleur rôle. Alex Lutz, Alex Lutz, c'est très bien dans Guy.
Oui, mais non.
Dominique Ménochet, génial aussi dans Jusqu'à la Garde. Pour moi, ça doit être un des trois.
Je sais que les Français ont kiffé Vincent Lacoste dans Amanda.
Ouais, j'allais dire, j'ai pas vu Amanda, donc je sais pas dire, mais c'est vrai que Vincent Lacoste a une jolie cote de popularité aussi.
En France, certainement. Donc on verra. À mon avis, ça va se jouer en effet entre Duris et Lacoste. Meilleure actrice, Élodie Boucher dans Pupille, Cécile de France dans Mademoiselle de Jonquière, Léa Drucker dans Jusqu'à la Garde, Ephira dans Un amour impossible, Adèle Anal. Anal.
Alors, les noms, vraiment, ça va pas du tout.
Du tout. Alors, il faut qu'on sorte ça.
T'arrêtes de confondre les A et les E, parce que déjà, ça va pas aller.
Hein, c'est ANL alors.
Mais Enel.
Enel.
Adèle Enel.
Bah, excuse-moi, c'est difficile, Adèle Enel.
Bah, tu vois bien que c'est un E avant le L là quand même. C'est pas un A, hein.
Oui, non. C'est ce que je voulais dire, Fira, je pense, c'est pour ça. Dans En Liberté, Sandrine Kiberlain dans Pupille et Mélanie Thierry dans La Douleur. Celle-là, tu vas me le prendre, tu vas me le rattraper, celle-là, à chaque fois. Ouh. Oh là là. Ouh. Ça va, personne n'écoute jusqu'ici dans le podcast, on est bon. Je suis pas sûr. Alors, qui va gagner dans ces catégories là? T'as une petite idée?
C'est difficile à dire. C'est à dire, on a une double nomination belge, hein, là encore. Virginie et Cécile, c'est bien.
C'est pas mal.
En effet. Mais non, je sais pas qui pourrait.
Moi, Élodie Boucher, je l'ai trouvé sublime dans Pupille, mais je ne pourrais pas dire pour le reste, donc c'est compliqué. Meilleure réalisation. Vas-y, dis les noms, j'ai plus envie de prendre de risques.
Emmanuel Finkiel pour La Douleur, Pierre Salvadori pour En Liberté, Jacques Audiard pour Les Frères Sisters, Gilles Lelouch pour Le Grand Bain, Alex Lutz pour Guy, Xavier Legrand.
Le Grand, pardon, excuse-moi. Je rigole, il fait le con.
Pour Jusqu'à la Garde.
Oui.
Et Jeanne Herry pour Pupille. Écoute, Audiard, à Venise, il a eu meilleure mise en scène quand même, hein.
Ouais, mais c'est un film en anglais et tout.
Et alors,
bah, les Français, dire... hein, bon, chers amis français qui nous écoutez, vous savez que le cinéma français, c'est...
Bon, moi, je pense qu'on peut déjà éliminer Gilles Lelouch et Alex Lutz. Je pense qu'on peut éliminer Jeanne Herry pour Pupi.
Mais Xavier Legrand aussi, parce qu'il risque de gagner le meilleur premier film, donc...
Je sais pas.
Ils vont pas le... Tu vois.
Mais pour moi, ça se joue plutôt entre Xavier Legrand et Jacques Audiard. Peut-être Pierre Salvadori, mais j'ai un doute.
Bah alors, sans doute Jacques Audiard. Hein. Et meilleur film, La Douleur, En Liberté, Les Frères Sisters, Le Grand Bain, Guy, Jusqu'à la Garde, Pupille.
Jusqu'à la Garde, qui est donc nommé en meilleur premier film et en meilleur film. Et Guy aussi, non?
Eh bah, je vais te surprendre, je pense que ça va être Le Grand Bain.
Ah non, Guy n'était pas nommé en meilleur premier film. Effectivement, ça me surprend. Je pense pas que ce sera le Grand Bain.
Parce que par contre, pour le reste des catégories, j'ai pas dit que c'était lui qui allait gagner des trucs, mais pour le meilleur film, je pense que c'est possible qu'il prenne un truc pareil.
Non, moi j'y crois pas.
Tu crois pas?
Bon, non.
De toute façon, réponse lors de la cérémonie César. Qui est présenté cette année par, tu sais qui, ou ils ont annoncé? Cadmerade, non?
Je sais plus.
Je sais pas non plus. Ok, bah on va...
J'avais su, mais...
Tu avais su, mais tu ne sais plus.
Si, c'est peut-être bien Cadmerade, je sais plus. Non.
C'est à moi de parler maintenant.
Allez.
Hein, on va parler de Continuer. Ah. Un film de Joachim Lafosse, hein, quand même. Pas n'importe qui, Joachim Lafosse, il a fait pas mal de films. Qui, cette fois-ci, revient avec Virginie Efira et un acteur que je connaissais pas. Peut-être que tu l'as déjà vu avant.
Casey Motéklin. Tu le connaissais pas? Mais oui, bien sûr.
Ben voilà, Casey Motéklin, je ne l'avais pas vu. Ou peut-être que je l'avais vu, mais je ne l'ai peut-être pas retenu.
Il jouait dans Keeper. Premier film de Guillaume Sonnez avec Galatea, dont on a parlé tout à l'heure.
D'accord, très bien.
Et dans plein d'autres choses, hein, okay. Mais je ne vais pas... Hein.
Et donc là, en fait, Continuer, ça raconte l'histoire d'une mère divorcée qui est déconnectée de son fils. Hein. Son fils est une boule de nerfs, un type extrêmement nerveux, qui, le genre de gars, quand tu le contredis ou que tu lui dis qu'il ne va pas faire quelque chose ou que ça ne se passe pas comme ça ou que tu essaies un peu de le diriger ou quoi, il va directement se braquer. Et ben elle décide de l'emmener en vacances au Kyrgyzstan, c'est ça.
Kyrgyzstan.
Kirghizistan.
Ouais, moi j'ai toujours dit.
Et là, ils vont faire du cheval hein, à deux dans la nature. C'est très bien filmé, c'est splendide, beau paysage, etc. Et ils vont clairement essayer de se reconstruire à travers deux, trois aventures, deux, trois choses qui se passent. Et surtout pas mal de discussions, pas mal de moments aussi de silence entre eux. Où on va voir que bah, le lien entre cette mère et son fils est complètement brisé. Et c'est à peu près tout en fait, pour être très franc avec vous. Le film dure 1h20, 1h15 même, parce que le générique dure très longtemps. Et on a cette espèce de un peu d'ambiance comme ça. On suit deux personnages qui ne parlent pas beaucoup, et quand ils parlent, c'est souvent de la confrontation. Souvent, en fait, c'est adapté d'un livre qui prenait justement le temps de décrire la situation. Et ici, bah, vu que c'est montré, en fait, ça laisse pas beaucoup de place à des dialogues et à des échanges. On a en fait. Quelques problèmes par rapport à ça, je trouve, puisqu'ils sont obligés de faire en sorte que les personnages récitent leurs problèmes. Et donc le fameux adage de Steven Spielberg, hein, show don't tell, ici le problème c'est qu'ils sont obligés de tout dire. Et donc littéralement le personnage peut s'arrêter sur son cheval et dire « Écoute maman, je pense que tu m'as jamais aimé. » Et donc t'es là, c'est un peu facile les gars, tu vois, enfin, y a moyen d'amener ça différemment. Et c'est vrai qu'ils ont un dialogue comme ça très... qui expose un peu tout le passé qui est entre les personnages, puisqu'il n'y a pas de flashback, on est vraiment tout le temps avec eux sur ces chevaux. Et donc ça donne un peu un résultat particulier, et d'ailleurs ce qui est étrange, c'est que Joachim Lafosse l'avoue lui-même, dans ses interviews pour ce film-ci, il dit voilà, j'ai bien conscience que mon film a certains défauts, notamment ce défaut-là, que c'est une adaptation d'un livre qui était particulièrement difficile à adapter, et que c'est un film de commande, hein. Il n'a pas choisi de faire ce film, enfin, c'est concrètement, on lui a dit tu le fais, et... donc...
D'accord, parce que moi je sais que Virginie, j'en avais parlé déjà avec elle, Virginie Efira voulait faire ce film, enfin elle voulait faire une adaptation du bouquin, et elle a appris que Joachim Lafosse était sur un projet aussi, et donc voilà, les deux projets entre guillemets sont retrouvés. Et non, ils sont devenus ils un. Ont... Mais je sais pas que c'était
il était impliqué... une commande. Ah, non, il était impliqué aussi, mais pour lui, il le perçoit comme un film de commande. Et il s'en détache un petit peu, c'est vrai. Alors que pourtant, attention, le film n'est pas mauvais, c'est pas à jeter, c'est pas... Il y a clairement des qualités au film, et je pense que faire le défi de tourner ça au Kirghizistan, je vais y arriver, hein. Avec bah, deux acteurs qui sont tout le temps face caméra, qui ont toujours leurs chevaux, qui vont dans la boue, qui font des trucs, etc., en mouvement et tout, c'est un challenge. Et aussi, clairement, ça donne lieu à des paysages assez sympathiques. C'est vrai que c'est rare de voir un drame familial se jouer comme ça au milieu d'une espèce de désert. D'habitude, on a plutôt l'habitude de voir ça dans un appartement, mais là, on voit ça dans un désert très... Enfin, voilà, c'est assez impressionnant et beau. Par contre, en effet, cette espèce de trame narrative, hein, ce qui se passe entre les deux personnages et leurs dialogues ne sont pas très intéressants. Et du coup, à la fin du film, quand c'est censé monter en émotion... quand on est censé avoir vraiment l'apogée des deux personnages et un peu une sorte de résolution, ça tombe à plat et ça se termine comme ça, un peu... Voilà, c'est un peu jambon, voilà, c'est fini. Il y a eu un petit coup de folie, mais ça ne prend pas, quoi. Le spectateur n'est pas investi davantage.
Ouais.
Voilà, c'est ça que je veux dire du film. J'ai rien de plus à dire particulier. Et je trouve que notre ami Casey Motteklein... c'est pas qu'il surjoue, mais c'est qu'il prend son rôle de personnage nerveux, un peu trop à cœur. Et donc, il s'emballe clairement parfois. Donc, il joue un peu le gars, voilà, le mec est nerveux, alors il trempe comme ça quand il est nerveux. Enfin, c'est un peu excessif parfois. Alors que par contre, Virginie Efira, elle est très très juste dans son rôle de mère. Ce qui est étrange parce que son enfant a quoi, 18 ans pratiquement. Hein, donc, Virginie Efira avec un enfant de 18 ans, ça fait quand même quelque chose. Mais elle joue très bien cette femme désespérée, parce qu'elle le fait bien. C'est cette espèce de femme qui a connu plusieurs mecs, mais qui a été un peu victime de situations difficiles. Est-ce qu'elle boit un petit peu? On ne sait pas. Enfin, tu vois, ce genre de femme un peu en marche. Ben voilà, donc ça manque peut-être un peu du coup de surprise. Ça manque de jeu entre les deux personnages. Ça manque aussi de situation plutôt que d'exposition. Donc voilà, c'est peut-être ça que je reprochais au film pour moi... c'est plus une carte postale du Kirghizistan qu'un chouette drame, quoi.
Et la mise en scène, t'en as pensé quoi?
Bah, justement, la mise en scène, c'est très, c'est uniquement, ils misent tout, ils misent quasiment tout sur le visuel, sur, sur ces deux personnages qui font du cheval, sur les décors, enfin les décors, les paysages. Il n'y a pas beaucoup de... Ils n'essayent pas des choses, quoi. C'est travelling avant, travelling arrière, caméra montée sur une voiture. D'ailleurs, tu vois les traces de pneus quand la voiture avance. Et donc, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, mais oui, c'est normal, ils ont dû faire avec. Et voilà, il est un peu bloqué sans doute par cette volonté d'aller là-bas, de faire ça là-bas et de se tenir trop au livre. C'est souvent ce qu'on dit quand on doit adapter un livre. Soit on fait le livre vraiment page par page, mais ça c'est compliqué, soit on prend un peu plus de liberté. Et ici, ils ont peut-être voulu trop respecter le livre, pas assez prendre liberté et pas assez adapter ça au cinéma. Et du coup, ça en fait un truc un peu particulier, quoi. Voilà. Alors pour moi, c'est entre une et deux étoiles. Très honnêtement. Je me suis ennuyé, donc je dirais une étoile.
Mais oui, d'accord. Ouais.
Mais voilà. Non, c'est pas... Le package est bien, hein, donc le poster est super, l'image est belle, mais tu me dis, voilà, il se passe pas grand-chose.
Petit accident de parcours.
Intéressant. Un petit accident de parcours pour la fosse qui n'a pas perdu son sens de l'image. Hein, c'est beau, mais c'est pas super intéressant.
En même temps, je pense que c'est le projet le plus... Mais... Peut-être pas dans le fond même, où il y a toujours cette thématique familiale qui est là, mais c'est peut-être le film sur la forme qui est le plus différent de son cinéma habituel, en fait.
Oui, clairement, il prend... Non, clairement, là, en adaptant ce livre-ci, c'est sa première adaptation de bouquin aussi, il le dit, hein, donc il n'a jamais adapté un bouquin avant, donc pour lui, c'est un nouvel exercice, et il s'est un tout petit peu cassé les dents dessus, je pense. Mais oui. Et il l'admet lui-même, donc voilà.
Bah, très honnêtement, pas hyper surpris parce que tu me dis, parce que j'avais déjà bien senti que le film ne créait pas un engouement dès le début, hein, je pense que comme souvent il espérait peut-être être à Cannes, il était à Venise, et encore à Venise il était dans une compétition parallèle, catégorie aussi
guest, oui, c'est ça.
Il était au Venice Days, donc c'est pas la sélection officielle. Il n'y a pas eu d'engouement particulier à Venise. Et donc voilà, je pense que il était pas au FIF après, je pense. Donc bon, visiblement le film est passé peut-être un peu à côté de son objectif. C'est dommage, mais bon.
Ouais, je pense que le plus gros défaut du film, c'est comme j'ai dit, c'est le côté il faut tout expliquer en fait par des dialogues. Et donc c'est parfois un peu, tu dis ok, c'est un peu gros, quoi, tu vois.
Mm-hmm.
Genre mais tu sais bien que j'étais occupé, enfin, tu vois, donc t'es là. Oh. Et donc, et puis après t'as une discussion comme ça entre deux personnages qui dit un peu comme si dans un film quelqu'un te dirait fais attention, hein, parce que moi demain je veux que tu sois là à 9h précise, tu sais qu'il va se passer quelque chose avec cette mise en garde, tu vois.
Ouais,
c'est un peu la même chose dans le film, là ils te mettent un élément où tu sais que ça va être reproché dans trois scènes, tu vois. Genre t'as changé de mec trois fois ou un truc comme ça, et tu sais que dans deux trois scènes il va dire de toute façon t'es qu'une pute, tu changes de mec tous les jours.
Trop évident, quoi.
C'est un peu évident. Mais ils sont pas le choix parce qu'ils font pas de flashback, ils l'utilisent pas.
Trop facile aussi.
Oui, c'est ça, c'est évident, c'est facile, c'est là, bon, les gars. C'est parce que sur le bouquin, ça donne sans doute beaucoup mieux, parce qu'il y a plus d'explications, il y a plus de choses, tu vois, ils prennent plus de temps aussi, sans doute. Ouais. Ici, ils doivent aller un peu plus vite, et du coup, ça rend le truc très évident. Voilà.
Bon, dommage.
Pour continuer.
Mais, donc,
il faut continuer.
Une étoile, oui. Mais donc continuer ne sera pas sur le chemin des cérémonies.
Non, clairement. Et pas aux Oscars non plus, d'ailleurs. Non, parce que c'est ça qu'on allait rentrer maintenant dans ce sujet-ci, alors que mon nez est en train de faire le geyser de je ne sais pas où. C'est très embêtant. Parlons des Oscars. Alors, forcément, dès qu'on arrive sur les listes, ils nous mettent meilleur film en première catégorie. On va essayer de descendre un petit peu. Pas trop, hein, parce que sinon, on va tomber...
On va pas faire les trucs trop techniques.
Meilleur éclairagiste, ouais, c'est ça. Donc, voilà. Il y a quand même...
Je vais quand même aller tout en bas, on ne sait jamais.
Scénario adapté, hein. Donc scénario adapté.
Scénario pour, original d'abord.
Ah oui, c'est vrai.
The Favorite, Roma, First Reformed, Vice et Green Book. Je n'ai toujours pas vu Vice. J'espère que ça arrivera un jour. Mais meilleur scénario, un petit The Favorite pour moi. Même si j'aime beaucoup First Reformed aussi, mais... The Favorite.
Moi, je pense que c'est Green Book. Writing, adapted screenplay. Donc ça, c'est les scénarios adaptés d'un bouquin ou autre. A Star is Born, If Beale Street Could Talk, Can You Ever Forgive Me, Black Klansman et The Ballad of Buster Scruggs.
If Beale Street Could Talk.
fortes chances. Mais aux États-Unis, ils aiment beaucoup A Star Is Born.
Ouais, un peu trop.
Un peu trop. Alors, les effets spéciaux, on a Avengers Infinity War, Christopher Robin, First Man, Solo et Ready Player One.
Ready Player One.
On avait compris.
Seul film où il a une nomination, il ne faut pas qu'il la loupe celle-là.
Sound mixing, sound editing, on va peut-être pas le faire quand même. Ouais. Short film non plus, désolé. Production design non plus. Musique, la chanson du film. À mon avis, ça va être Shallow.
Je pense que ce sera...
Ce sera Shallow.
Tell me something.
Avec une interprétation live, à mon avis, de Bradley Cooper et Lady Gaga.
Ouais, bah oui, ils ont fait... Il est allé, il a
mais
fait
ils vont le faire aux Oscars, clairement.
Bah bien sûr, ils sont obligés.
D'office.
Bon, alors ça, c'était pour la meilleure chanson, mais meilleure musique.
Là, on a Black Panther, Black Lives Matter, If Beale Street Could Talk, Eyes of Dog, enfin Lilo Chien, pardon, et Mary Poppins, c'est le retour de Mary Poppins.
Il y a quand même un truc qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a pas First Man dans les
nommés. Il n'y a pas Urbitz, ce n'est pas là.
Voilà. Ça, c'est un peu scandaleux. Ben moi, If Beale Street Could Talk, c'est la deuxième meilleure BO de l'année, donc...
Ben voilà.
On ne va pas partager vers si longtemps, même si celle de Black Panther est très bien aussi. Très très bien.
Meilleur film étranger, Capharnaüm, Cold War, Never Look Away, Roma et Shoplifter.
Bah Roma, pour moi. Mais Roma. Si c'est Shoplifter, je suis très content aussi. Si c'est Cold War, c'est
Roma,
très bien aussi.
Roma, ça sera Roma. Film editing, non. Documentaire,
si,
non.
Si. Parce que justement, il y a des choses à dire. Vas-y. Il y a Black Landsman qui est nommé, très bien. Il y a Green Book, très bien aussi le montage. Vice, pas vu, mais je pense que c'est très bien. The Favorite, le montage est vraiment impeccable et je pense même que c'est celui qui va gagner. Par contre, Bohemian Rhapsody, c'est
de la
foutage de gueule. Ah, vraiment. Alors, je sais pas si t'as vu sur Twitter, là, pour l'instant, il y a un extrait du film qui passe en boucle partout. Les gens se foutent de la gueule du film, surtout grâce à cause de cet extrait-là. C'est dégueulasse le montage. Hein. C'est un infâme. Montage, oui. C'est pire que du Michael Bay. Hein. Ça n'a aucun sens, t'as des coupes qui n'ont rien à faire là, c'est vraiment dégueulasse. Donc vraiment une nomination pour Bohemian Rhapsody pour le meilleur montage, c'est du gros,
c'est un
gros,
peu tiré loin,
gros
c'est ça.
Foutage de gueule.
Réalisation, Spike Lee pour Black Lives Matter, Alfonso Cuarón pour Roma, Cold War,
Pavel Pavlikovski.
Merci. Adam McKay pour Vice et Yorgos Lanthimos pour The Favourite.
Alors il y a un truc que je trouve génial, c'est que et Roma et Cold War sont nommés pour la meilleure réalisation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux films qui sont nommés en meilleur film étranger qui sont aussi nommés pour meilleur réalisateur.
Pour la réal, ouais.
Ça, c'est dingue. Je pense pas que ce soit arrivé souvent que les réalisateurs d'un film nommé en meilleur film étranger, enfin meilleur film en langue étrangère, pardon,
bah, quand ils pensent,
soient nommés en meilleur réalisateur.
C'est très international. Hein. Yorgos Lanthimos, à la base, il est quand même grec. Donc,
Oui, mais il y a trois non-américains dans le lot, hein, déjà. Ouais, donc. Bah, moi je vais dire évidemment Alfonso Cuarón, si c'est pas Cuarón, plutôt Lanthimos, mais voilà, je pense que ce serait Cuarón.
Alors, donc chef opérateur hein, dans ce cas-ci, l'image, on a Cold War, on a Roma, on a The Favourite, Star Is Born et Never Look Away, ça va être Star Is Born, pour la meilleure photo.
Arrête de me faire des frayeurs comme ça.
Roma.
Évidemment Roma.
Meilleur film d'animation.
Mais Spider-Man.
Spider-Man Into the Spider-Verse, ce serait bien, hein, mais... ouais, bah, espérons. Mais il faut peut-être aller avec le plus, enfin, le plus classico, facile...
Lilo au chien.
Indescriptible. Ouais, non, Lilo au chien. Indescriptible, t'imagines.
Ouais, non, moi j'espère vraiment que ce sera Spider-Man.
Alors, actrice dans un rôle, second rôle, Amy Adams, Marina de Tavira pour Roma, donc Amy Adams était dans Vice, hein. Regina King pour If Beale Street Could Talk, Rachel Weisz pour The Favourite et Emma Stone pour The Favourite. Il y a quand même deux chances que ce soit quelqu'un de The Favourite qui parte, mais avec le prix.
Non, mais à mon avis, pense pas. Ce sera... Je pense que ce sera Regina King pour If Beale Street Could Talk. Elle est d'ailleurs repartie avec le SAG Award il y a quelques jours, donc je pense que ce sera elle. Je trouve que Marina de Tavira, enfin bon, elles sont toutes géniales. J'ai pas vu Amy Adams dans Vice, mais elle est toujours bien. Donc voilà, je pense qu'il y a 5 très solides actrices dans le lot. Donc à mon avis, il y en a pas une. Enfin, peu importe qui gagne, ce sera pas honteux.
Ok. Acteur dans un second rôle, on a Mahershala Ali pour Green Book, Adam Driver pour Black Lives Matter, Sam Elliott pour A Star Is Born, Richard E. Grant pour Can You Ever Forgive Me et Sam Rockwell pour Vice et son George Bush.
Alors j'ai pas vu Can You Ever Forgive Me, mais mon choix se porterait entre Mahershala Ali ou Sam Elliott dans A Star Is Born, que je trouve vraiment exceptionnel. C'est un acteur que j'aime beaucoup et il a une scène absolument hyper touchante, parce que autant j'ai pas mal de reproches à faire au film, autant je trouve que les scènes d'émotion généralement sont plutôt bien gérées. Il y en a une, je pense, à mon avis que j'en ai déjà parlé à ce moment-là, mais quand le personnage de Bradley Cooper, donc ce chanteur raté, à un moment il revient de sa désintox, et son frère, qui est donc joué par Sam Elliott, le reconduit chez lui, et au moment où Bradley Cooper sort de la voiture, il dit à son frère qu'en fait, celui qu'il avait admiré toute sa vie, c'était pas leur père, mais c'était lui. Et puis, il reclaque la portière, il rentre dans sa maison, et Sam Elliott, tu vois juste qu'il se retourne vers la caméra qui était sur le siège arrière, et il se retourne parce qu'en fait, il recule sa voiture, donc il regarde juste derrière, et donc tu vois qu'il est avec les yeux... les yeux en larmes. Voilà, et c'est une des scènes qui m'a marqué, pour le coup, et je trouve que Sam Elliott est absolument génial. Donc, Mahershala Ali serait un excellent choix, évidemment, mais... pour le coup, s'il y a bien un Oscar que mérite Star is Born, c'est celui-là.
Why not? Actrice, dans un rôle principal, on a Aparicio.
Yalitza Aparicio.
Yalitza Aparicio de Roma, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga et Melissa McCarthy. Alors, pour des films différents, bien sûr. Glenn Close, c'est pour The Wife. Olivia Colman, c'est pour The Favourite. Lady Gaga, c'est pour Star is Born. Et Melissa McCarthy, c'est une belle surprise. Can You Ever Forgive Me? Donc là...
Mais... À Venise, pour moi, il y avait deux, j'avais deux favorites pour le prix de la meilleure actrice. C'était Olivia Colman et Lady Gaga. C'est Olivia Colman qui l'a eu, amplement mérité évidemment. Yalitza Aparicio était géniale aussi évidemment, donc oui. elle le mériterait. Et Glenn Close, bah, elle a déjà eu le Golden Globe, amplement mérité aussi. D'ailleurs, je pense qu'après avoir vu le film avant la sortie donc de The Wife, j'avais aussi mentionné que Glenn Close serait parmi les favorites pour l'Oscar. Au final, je retrouve trois comédiennes que je voyais bien dans ces nominations. Donc, peu importe qui c'est, ce sera très bien. J'ai pas vu Can You Ever Forgive Me, donc je sais pas si Melissa McCarthy.
Si Lady Gaga, voilà, là, quand même, non.
Ça serait mérité, vraiment.
Ça sent. Hein. T'imagines un Oscar pour Lady Gaga. Boum. Acteur dans un rôle principal, Christian Bale dans Vice, Bradley Cooper dans Star is Born, Willem Dafoe pour Eternity's Gate, pardon, et Rami Malek pour Bohemian Rhapsody et Viggo Mortensen pour Green Book.
Mais Willem Dafoe, comme Olivia Colman, il a eu le prix du meilleur acteur à Venise, amplement mérité aussi. Donc Bradley Cooper, malheureusement, si, même s'il est très bien, je ne le vois pas gagner l'Oscar. Christian Bale, il est sûrement très très bien, j'en ai aucun doute. Rami Malek a eu le Golden Globe, entièrement, amplement mérité aussi. Viggo Mortensen, ça serait génial, il n'a jamais été primé pour son métier de comédien, donc moi, j'adorerais le voir récompensé ici. Mais je pense que ce sera Rami Malek.
Je pense aussi.
Pour le coup, seul Oscar mérité pour Bohemian Rhapsody aussi.
Et meilleur film, on a Black Panther. Attention, ça fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas eu un film de super-héros nominé à l'Oscar. Et Christopher Nolan n'a jamais eu un film nominé à l'Oscar de super-héros.
Ouais. Donc,
pas de Batman. Black Lives Matter, Bohemian Rhapsody, The Favourites, Green Book, Roma, A Star is Born et Vice. Alors Roma, qui est encore dans cette catégorie, c'est quand même...
Oui.
Il est
partout. Bah, moi, ce sera Roma, évidemment.
Oui, toi, oui. Mais
si c'est pas Roma, The Favourite ou Green Book, mais
les Bohemian autres... Rhapsody.
Bohemian et Black Panther, c'est une hérésie, je suis désolé. A Star is Born, c'est pas hyper mérité non plus. Donc, bon, voilà. Mais je pense que ce sera Roma.
On va voir. Hein. En tout cas, si c'est Roma, je pense que Alfonso va repartir avec pas mal de trucs, hein, parce que
il a déjà eu l'Oscar en plus. Hein.
C'est ça.
Donc, rappel avec Gravity.
Ce serait quelque chose, ça quand même. Donc, ok, on va voir tout ça. On a hâte d'être aux Oscars. C'est fin février, si je me trompe pas. On n'y sera pas, hein, mais on en parlera. Qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu, Thibaut? C'est le dernier film de la semaine dont tu veux nous parler, mais à mon avis brièvement, parce que c'est pas le genre de film sur lequel tu veux t'attarder.
Non. Alors. Qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a encore fait, au bon Dieu? Je me suis le demandé. Je me le suis demandé, pardon, j'arrive plus à parler.
Tu
je te fréquente trop.
Oui, c'est vrai.
Par un beau soir du 1er janvier, j'ai été au cinéma. Un lendemain de gueule de bois. Et voilà.
C'était pour ça que tu as été d'ailleurs.
On savait que... Enfin, il y avait quand même peu de chances que ce film soit montré à la presse. Donc, c'est 1er janvier, plus grand chose à faire le soir. Donc, hop. Petit film, quelle erreur, hein. Je ne sais pas pourquoi j'y étais. C'est hallucinant ce film. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est...
Donc attends, dis-moi le pitch, parce que dans le premier, c'était les filles qui font rencontrer les beaux mecs, enfin les beaux
du
fils.
Pitch. On s'en fout du pitch.
Et qui étaient d'origine étrangère, et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe pour...
Ben, les beaux fils, ils veulent... Ils ont un peu du mal avec la France, ils veulent tous partir...
Rentrer au pays.
Ben ouais, rentrer au bled. Hein.
Oui.
Parce que la France, machin, enfin bon, soit. Alors face à cette famille très conservatrice, en tout cas, enfin que sont les parents Verneuil... C'est compliqué. Hein. Donc, les grands-parents, bah, pour, parce que si les familles se cassent, ils sont tout seuls en France. Hein. Et donc, plus de petits-enfants.
Oui.
Donc, mission, on va garder, je vais le dire très vulgairement, Bamboula, le Shintok et le Feuge et l'Arabe, on va les garder en France. Hein. C'est limite ça. Hein. C'est limite comme ça qu'ils le disent. Hein. Oui, c'est dramatique. Je vois bien que tu ris jaune, c'est normal. Et bah, donc, ce ne sont que des blagues culturelles et racistes pendant une heure et demie. Alors, très honnêtement, à force de faire 200 blagues sur l'heure et demie, il y en a bien deux, trois qui m'ont fait sourire, voire peut-être rigoler. Je ne m'en souviens pas. Mais globalement, toutes les blagues tombent à plat, quoi. Je veux dire, ça a 20 ans de retard, c'est hallucinant. Et il y a un truc qui est dingue, ça a l'air de rien. Alors, je sais plus si j'en ai déjà parlé ou pas, mais j'en ai déjà tellement parlé un peu partout que je ne sais plus si je l'ai dit dans ce podcast-ci ou pas. Mais il y a une scène où les grands-parents rentrent de leur petite trip à l'étranger, parce qu'ils ont fait le tour de toute leur belle famille. Ils ont été visiter tous les parents de leur beau-fils. Et en revenant de Chine, à un moment, tu vois un beau plan sur un A380 en l'air, en plein vol. Puis tu as une scène dans l'avion où tu as les deux vieux qui causent, hein, Christian Clavier et Chantal Lobby. Et puis tu as une image, un plan de l'avion qui atterrit à Charles de Gaulle, sauf que c'est plus un A380. C'est un autre avion. Alors, s'il y a bien deux avions reconnaissables par n'importe qui au monde, c'est un Boeing 747 et un A380. Donc tu peux pas aller foutre l'image d'un autre avion qui atterrit si c'est pas un A380, quoi. Enfin, je veux dire, à moins d'être teubé, tu vois la différence.
Ils ont pas d'abonnement Vidéostock, à mon avis.
Ben non, ça. Non, c'est... Mais c'est... Enfin, je veux dire, on parle d'une prod, je sais plus... Enfin, j'ose pas dire une connerie, millions, mais c'est TF1, c'est des Europa Corse, oui. Enfin, c'est des prods comme ça, quoi, qui sont derrière. Donc, je veux dire, c'est... mec, ils ont du pognon. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ces conneries de faire des trucs pareils? Non, vraiment, ça m'a choqué. Alors, c'est mieux que All Inclusive, hein, cela dit. Mais parce qu'il y a quand même, je te dis, à force de faire des blagues tout le temps, en permanence, il y a bien l'une ou l'autre qui fonctionne.
Oui, bien sûr.
Donc, dire qu'il n'y a vraiment rien qui est drôle dans le film, et ce puis serait
avec
un peu de la mauvaise foi.
Un petit peu. Donc, il y a deux, trois trucs où tu te dis, ok, je vois à quoi il faut référence. Donc, voilà.
Mais clairement, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Hein.
Non.
Ça n'en vaut pas la peine. Surtout
Est-ce que c'est pire que le premier?
Oui, sans doute.
Équivalent.
Ouais.
Même le niveau. Le premier était quand même bas de panier, mais bon, voilà, c'est clair que on sait à quoi on s'aventure quand on va voir ce genre de film. Mmh. N'est-ce pas, Monsieur Clavier, qui d'ailleurs est la bande-annonce de son film avec...
Il a l'air très bien dans le prochain film de Bertrand Blier avec
Oui, il a bien, par contre, le film a l'air complètement...
Ouais, mais ça a l'air complètement barré, ça qui est bien.
C'est Blié, quoi.
C'est Blié.
Parcourons du coup les films de la semaine. Pour terminer cette émission, alors qu'est-ce qu'on a encore fait, mon Dieu? Bah, c'est... On n'a pas dit les nombres d'étoiles, donc je...
Ah. Bon, zéro.
Zéro, d'accord.
Je ne sais pas pourquoi je prends
Dragon
tant de temps.
Dragon 3, Le Monde Caché, c'était 4 étoiles. Donbass.
C'est le film qui a fait l'ouverture de la section Un Certain Regard à Cannes. Je ne l'ai pas vu, mais ça parle de la guerre du Donbass.
D'accord.
Filmé... En fait, il filme une équipe de tournage qui filme dans cette région. Mais j'ai de très bons retours du film, donc je suis assez curieux de voir ça. Si j'ai l'occasion, je n'y manquerai pas.
D'accord. Green Book sur les routes du Sud, de nouveau un titre français. Ouais, c'était 4 étoiles pour Green Book. Continuer, c'était 1 étoile. Oui, c'est pas cher payé. Et Les Estivants, c'est un film que je ne connais pas.
En fait, c'est un film qui était aussi à Venise en hors compétition. C'est un film faussement autobiographique de Valeria Bruni Tedeschi. En fait, c'est son histoire.
D'accord.
Sauf qu'elle l'a un peu romancée. Et du coup, elle dit pas que c'est son. Elle dit au journaliste, non, c'est pas mon histoire, c'est de la fiction, machin. Mais bon, c'est son histoire. Hein.
On a compris, quoi.
Voilà.
Donc voilà.
Mais j'ai pas eu de bon retour du film, très honnêtement. Donc, écoute, mais je ne l'ai pas vu, donc je ne me permettrai pas d'émettre un quelconque jugement. Donc voilà.
Voilà, c'était tout pour cette semaine, l'épisode de Cinécast 19 de la saison 2. On se voit en tout cas, enfin nous on se voit tous les deux samedi parce qu'on va à la cérémonie des Magritte à Bruxelles.
Oui.
On va sans doute faire quelque chose, donc restez au courant sur par exemple notre page Facebook ou notre compte Twitter parce qu'on va vous envoyer un tweet ou quoi que ce soit si jamais on fait quelque chose de particulier là-bas. Quoi qu'il arrive, on essaiera d'avoir certains lauréats au micro. Mais voilà, on prépare les choses en coulisses et on revient vers vous dès qu'on a un peu plus d'informations sur la soirée des Magritte, mais sachez qu'on sera là pour vous fournir du contenu de qualité. Merci bien, il y a juste l'orthographe qui est à revoir, mais ça, vous le savez depuis longtemps. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine, enfin en tout cas peut-être à ce week-end, des bisous,
des gros bisous,
des gros bisous, ciao ciao.